RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, avec une rediffusion, aujourd'hui on part en Chine, la Chine qui s'est engagée à inverser la courbe de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le cadre de la conférence climat, la COP21. Un changement de cap important car jusque-là, le plus grand pays pollueur du monde avait toujours mis en avant son statut de pays en développement pour justifier son peu d'entrain pour lancer la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, l'usine du monde serait-elle en train de devenir le laboratoire du monde pour la croissance verte? La Chine, poussée par une population exaspérée par la pollution, tiendra-t-elle ses promesses? L'empire du milieu est déjà le plus grand producteur du monde des énergies renouvelables, mais les autorités locales font de la résistance contre cette transition verte. Alors Chine, de l'usine du monde vers un laboratoire de l'économie verte, un grand reportage signé Heike Schmidt.
La pollution de l'air, c'est un problème mondial. Mais en Chine, c'est une question de vie ou mort.
Wen Fang est artiste, mais avant d'être artiste, elle est maman. Et elle ne supporte plus l'idée que son fils ne voit que rarement le ciel bleu, qu'il doit être hospitalisé juste parce qu'il grandit à Pékin, cette mégalopole de 20 millions d'habitants plongée un jour sur deux dans une brume toxique. Alors, Wen Fang est venue participer au forum WeBelong. C'est une plateforme d'échange et de coopération commerciale autour du développement durable.
Nous, les Chinois, on a l'habitude d'attendre le gouvernement ou quelqu'un d'autre qui vienne de nous sauver. Mais il faut penser que cette situation, ça ne vient pas des autres, que chacun peut faire quelque chose pour améliorer la situation de la pollution de l'air. C'est pour ça que je vous invite de venir derrière de l'écran. On va faire chacun une masque avec les choses qu'on a portées avant de partir.
Wen Fang utilise l'art comme un outil pour éveiller les consciences. Dans le cadre de la conférence climat COP21 à Paris, cette Pékinoise a créé le Mask Book, un projet artistique soutenu par les Nations Unies. 1500 citoyens venant de 25 pays ont déjà créé leur propre masque anti-pollution. Ce soir, c'est aux Chinois de mettre la main à la pâte.
Quand je vois les gens qui portent le masque pour se protéger, je trouve ça triste. J'ai donc égayé mon masque avec une boule mise de chaque côté. L'une est décorée d'un visage qui pleure, l'autre sourit. Ça fait du bien. De plus en plus de Chinois veulent protéger l'environnement. Je fais confiance au gouvernement. La Chine est sur la bonne voie.
D'après moi, il faut choisir le transport public. Prendre le vélo ou marcher. J'espère que les autorités vont construire des parkings, ça nous encouragera à prendre le métro. Le gouvernement, lui, devrait réduire l'utilisation des énergies fossiles, le charbon, et développer les énergies propres.
Alors, il y a des plumes, il y a des billets d'argent. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour créer son propre masque?
Il y a plein de façons différentes. Il faut réfléchir d'abord. Pourquoi on a de la pollution de l'air? Après, tu peux présenter ton inquiétude ou ton souhait ou ta solution, comme vous voulez.
Mais porter un masque, c'est plutôt quelque chose de triste.
Ouais, mais ici, c'est le contraire. Parce que le masque, c'est se protéger. C'est fermer, c'est sans parler, c'est se muer.
On respire mal.
Ouais, mais ça, c'est ouvrir, exprimer, créer et chacun faire un petit pas, comme des fourmis. Donc ça, on a exposé au Grand Palais, aussi sur le COP21.
Et depuis, qu'est-ce qui a changé?
Je crois que ça change plutôt la tête, la mentalité des gens. C'est pas que à cause du gouvernement, nous sommes dans ce cas-là. C'est aussi à cause de nous.
Donc le gouvernement est content de votre action?
Je sais pas. J'ai jamais parlé avec quelqu'un de gouvernement. Mais votre président, Hollande, est venu de voir notre exposition au Grand Palais. Il dit qu'il va faire son propre masque.
Est-ce que c'est plus difficile de convaincre les Chinois que les Français?
Oui. Je crois que c'est un peu à cause de ça que nous sommes dans cette pollution.
Vous voyez les changements positifs?
Pas beaucoup. La pollution de l'air, c'est vraiment très, très grave.
Après fini votre masque, je dois prendre une photo pour chacun. Okay.
Wen Fang fait partie de ces pionniers chinois que la Française Nathalie Bastianelli met en valeur via sa fondation WeBelong.
Je me suis dit que c'était intéressant de faire le pont entre l'Europe, pas du tout. C'était pas bilatéral France-Chine, c'était vraiment comment on fait le pont et on connecte les solutions durables avec les solutions durables chinoises.
Mais alors, est-ce qu'il y a des preneurs en Chine pour vos solutions ?
Alors, il y a deux choses. Le contexte du changement climatique, des enjeux de pollution, il est très élevé en Chine. Mais du fait de l'organisation politique du pays, généralement, quand il y a des problèmes en Chine, les solutions viennent du gouvernement. Nous, notre message, nous, on veut se connecter aux consommateurs. Donc, on veut absolument partager toutes ces solutions qui émergent dans tous les coins de la planète, en Chine aussi, et les partager pour que les entrepreneurs, les consommateurs et les médias chinois comprennent qu'ils font partie de la solution. Ils ne le savent pas, ils n'ont pas cette conscience-là. Ils adorent qu'on les connecte aux solutions, ils sont très demandeurs.
La Chine dépend à 70% du charbon pour son électricité, il y a d'autres solutions, il y a les énergies renouvelables. Est-ce que vous sentez le vent tourner en Chine ?
Le vent a déjà tourné. À la COP21, vous avez même des publications américaines qui ont dit que la Chine est en train de donner une leçon au monde. Tous les experts savent que la Chine est le pays qui investit le plus au monde sur les solutions. Ce que disent les officiels chinois, on est un paquebot. On a décidé de virer de bord, mais ça prend un peu de temps. Donc oui, le virage sur une économie verte est déjà abordé. Ils n'ont pas le choix. Il y a un enjeu de stabilité intérieure qui est très fort derrière. La population chinoise, elle est excédée par ce qu'elle doit supporter. Donc bien sûr que c'est la priorité numéro un du gouvernement. Ce pays s'est mis en marche vers cette transition verte.
Le vent tourne-t-il vraiment dans le pays premier pollueur du monde ? C'est lui qui est responsable d'un quart de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Qui consomme la moitié du charbon utilisé sur la planète, la Chine, où 1 million de personnes meurent chaque année à cause de maladies liées à la pollution, a-t-elle entamé sa transition verte ? Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au Forum de l'éolien, qui a récemment réuni à Pékin plusieurs centaines d'acteurs de ce secteur en pleine croissance.
Bon après-midi à tous. Je voudrais féliciter tous les participants. Vous tous, vous avez fait un boulot extraordinaire en imposant en un temps record la Chine comme la locomotive mondiale de l'éolien. Vous pouvez tous être fiers de cet exploit.
Paul Simons, directeur exécutif adjoint de l'Agence internationale de l'énergie.
Entre 2005 et 2015, la Chine a assuré 35% de la croissance mondiale dans l'énergie éolienne, tandis que l'Europe y a contribué à hauteur de 30%. Si nous regardons nos prévisions à moyen terme pour les 6 prochaines années, nous estimons que la Chine assurera 40% de la croissance dans ce secteur. C'est pour cette raison que la Chine va davantage encore s'imposer comme le leader mondial.
La Chine, championne des énergies renouvelables, Cédric Philibert, analyste auprès de l'Agence internationale de l'énergie.
La Chine a dépassé l'Europe tout entière en matière d'hydroélectricité vers 2010. Elle a dépassé l'Europe tout entière en matière d'installation éolienne en 2015, l'an dernier. Et elle aura dépassé l'Europe tout entière en termes d'installation photovoltaïque avant 2020. Donc elle a déjà dépassé l'Allemagne, qui était le premier pays dans le monde pour le solaire. Voilà, elle est déjà le premier pays dans le monde, mais elle fera bientôt plus que l'Europe tout entière.
En 2015, presque une éolienne sur deux dans le monde a été installée en Chine. Chaque heure, une nouvelle turbine est construite ici. Mais attention, ces chiffres sont trompeurs. Car en réalité, bon nombre de moulins tournent en vain ou sont à l'arrêt. Yu Slater, chercheur au Forum chinois du carbone, une plateforme indépendante qui promeut les énergies vertes en Chine.
L'an dernier, la Chine dépassait de 50% la capacité éolienne installée aux États-Unis, mais elle produisait 12% d'électricité en moins que les Américains. Le système est inefficace, surtout parce que la croissance économique est plus faible que prévu, mais il est vrai aussi qu'il faut réformer d'urgence le secteur de l'énergie chinoise.
Pékin a subventionné l'énergie renouvelable à coût de milliards d'euros. Non sans quelques effets pervers, comme l'affirme Cédric Philibert.
C'est vrai que pour l'instant, vous avez des endroits dans certaines provinces du nord et du nord-ouest où on a installé des éoliennes avant même d'avoir construit les lignes pour les relier au réseau. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est que vous avez beaucoup de charbon. Le gouvernement chinois et les gouvernements de province doivent maintenant s'attaquer aussi à la question de la sortie du charbon. Surtout qu'ils continuent de construire des centrales à charbon. Alors, celles qui construisent sont plus modernes, sont plus efficaces, elles consomment moins de charbon, elles polluent beaucoup moins. Et la question, c'est ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est fermer les plus anciennes au moins.
L'ONG Greenpeace dénonce une bulle à charbon. En 2015, 155 nouvelles centrales thermiques ont été approuvées, un nombre record. Pourtant, la Chine produit déjà beaucoup trop d'électricité. D'ici 2020, estime l'ONG, la surcapacité pourrait atteindre 200 gigawatts. C'est plus que la totalité de l'électricité produite dans les centrales thermiques de l'ensemble de l'Union européenne.
Le secteur du charbon est entièrement contrôlé par des sociétés d'État. Ces sociétés, de toute évidence, sont très puissantes, non seulement au niveau national, mais surtout au niveau local. Elles emploient un grand nombre de salariés, c'est leur levier. Et c'est facile pour les centrales à charbon d'utiliser cette influence pour obtenir un traitement de faveur et d'écarter les concurrents des énergies renouvelables. C'est difficile pour l'éolien et le solaire de s'imposer sur ce marché.
Pékin l'a pourtant promis lors de la signature de l'accord climat à Paris en 2015. D'ici 2030, la part des énergies renouvelables doit passer des 12% aujourd'hui à 20%. Un vœu pieux. En tout cas, Huang Chun, responsable du groupe China Longyuan, l'un des leaders de l'éolien, dénonce, lui, un gaspillage systématique des énergies propres au profit du charbon.
On estime que 60 milliards de kilowatts d'énergie éolienne ont été produits en 20 cette année. Ce chiffre est égal à la capacité de production de toutes les nouvelles turbines installées en 2015. Ces milliards d'euros d'investissement sont perdus. Les gouvernements locaux ignorent la loi qui pourtant les oblige à acheter notre électricité. Cette année, la moitié de l'électricité produite par les parcs à éolien dans la province du Gansu a été gaspillée. Les gouvernements locaux gagnent mieux avec le charbon, surtout dans le sud. Le gouvernement de Pékin a même autorisé de nouvelles centrales à charbon. Je les vois pousser partout.
Ye Hangye, directeur adjoint de Zhejiang Windy, une entreprise qui fournit les équipements pour l'installation de centrales éoliennes, met lui aussi les autorités locales en cause.
Les gouvernements locaux favorisent le charbon, car si un jour les éoliennes remplacent le charbon, les mineurs seront au chômage. D'où viendront alors les impôts qui remplissent les caisses publiques? Ils protègent donc leur centrale à charbon et l'éolien passe après.
L'industrie du charbon emploie au moins 6 millions de salariés. Pékin a annoncé la suppression d'1 300 000 postes, mais cette restructuration est lente à démarrer. La transition vers les énergies propres prendra du temps. Zheng Kai, lui, n'a pas voulu attendre que le gouvernement agisse. Ce Pékinois d'une quarantaine d'années, au visage rond et souriant, nous reçoit dans son pavillon équipé de panneaux photovoltaïques.
En 2013, j'ai installé des panneaux solaires sur mon toit. J'étais le premier à Pékin à me chauffer au solaire. En moyenne, mes panneaux produisent 10 unités d'électricité par jour. Une famille pékinoise consomme seulement 8 unités en moyenne. Pour les lampes, le frigo, l'ordinateur, la télé, c'est suffisant. Mais les jours de pollution, je ne produis qu'une unité. Et les jours de pluie, rien. Si je ne consomme pas, l'État me rachète mon électricité. Je suis le premier à faire ça. Et puis j'ai même créé une entreprise. J'ai équipé déjà 20 foyers. Grâce aux subventions, leur investissement sera amorti au bout de 6 ans.
Mais les affaires ne vont pas bien, admet volontiers ce pionnier de l'énergie solaire.
Ça prend du temps pour que les Chinois adoptent les panneaux solaires chez eux. Je trouve que le gouvernement ne promeut pas assez les énergies propres. Mon entreprise se développe difficilement parce que les Chinois n'ont pas encore la conscience verte et ils connaissent très peu ce secteur. Mon entreprise survit seulement, mais je ne fais pas de bénéfices. La plupart des gens trouvent que l'installation de panneaux solaires coûte trop cher. Pour une puissance de 3000 watts, comme chez moi, il y en a environ pour 4000 euros.
En attendant, presque un Pékinois sur deux déclare porter régulièrement un masque anti-pollution. Un marché qui représentait 540 millions d'euros en 2015, selon la presse officielle. Cet hiver, les citadins seront encore obligés de vivre au rythme des pics de pollution, à l'instar de Wang Yi, maman de Léo, 8 ans, Anna, 5 ans et Mia, 2 ans. L'arsenal anti-pollution n'a pas de secret pour cette famille franco-chinoise.
Comme on a 3 enfants, on fait beaucoup d'attention à ça. En fait, dans chaque chambre, j'ai équipé un purificateur de l'air. En gros, en arrivant, j'ai acheté 5 purificateurs. Ce sont des bonnes marques, donc j'ai investi à peu près 6 500 euros rien que dans la machine. Et ces machines, chaque année, je dois changer les filtres. Et le coût de filtres, c'est autour de 800 euros par an. J'ai aussi, dans les chambres qu'on dorme, j'ai mis chaque chambre une machine de humidificateur. Je pense que pendant l'hiver, pour les enfants, ça fait vraiment une bonne protection. Parce que dehors, par exemple, ça fait 3 jours, il y a plein de l'école qui ont fermé activité dehors.
On est en alerte orange.
Cette saison, les enfants, ils peuvent quasiment pas sortir. Par exemple, là, ça fait quasiment 3 jours, on n'a pas ouvert la fenêtre. Quand ils sortent, ils portent des masques. En plus, c'est des masques qui coûtent une fortune aussi. Rien qu'une petite masque pour la petite, ma troisième qui a 2 ans et demi, donc ça va être 30 euros. Le coût contre la pollution pour nous, c'est quand même très très cher.
Ce soir-là, l'indice de la qualité de l'air affiche 350. L'air de Pékin est donc dangereux pour la santé. Léo connaît la chanson.
Bah, tu restes à la maison, aller à l'école avec des masques, ou sinon ne pas faire de sport dehors, trucs comme ça. Mais en fait, en France, c'est vraiment la folie. Hein. S'il y a 100 à la pollution, et se dit, mais c'est quoi ce truc-là? On va mourir, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Et en Chine, s'il y a 100, ils se disent, mais c'est le paradis ou quoi?
Et c'est là où on ouvre la fenêtre.
Ouais. Il reprend ma vie. Il passe les messies.
Faute de pouvoir jouer dehors, Léo tape dans le ballon dans la salle de séjour, pendant que sa petite sœur Mia a l'inhalateur plaqué sur la bouche pour soulager sa toux.
Ah bah ça, c'est une sorte de bébé à l'heure. La petite, elle a eu une bronchiolite, ce qui est assez courant à Pékin. Je pense que forcément, la pollution, ça joue dedans. Quand il fait froid, plus quand il y a plus de pollution, et les enfants sont fragilisés.
La pollution est devenue un tel problème que ça crée non seulement le coût pour les familles, mais le coût pour la société. Il y a de plus en plus de gens qui sont malades. Finalement, plus de croissance on a créé dans d'autres domaines, ça va être consommé par ce coût de pollution.
Si la Chine n'est pas encore le laboratoire du monde pour la croissance verte, elle est au moins le laboratoire du high-tech anti-pollution. Un exemple parmi tant d'autres, la start-up Air Visual de Yan Bokiyo. Installée depuis 18 ans en Chine, cet ingénieur de formation a développé Node, un boîtier capable de mesurer la qualité de l'air à l'intérieur.
Voilà, c'est donc en fait un capteur de pollution qui peut être utilisé dans la maison ou bien à l'extérieur. Donc l'AQI, c'est l'indice de la qualité de l'air. Et donc comme on s'aperçoit, dehors, c'est un indice qui est à 335. Ça veut dire que c'est très très dangereux pour la santé. Donc on peut vraiment dire que c'est un pic de pollution là en ce moment. Et comparé à l'intérieur, où on a presque 25 fois moins de pollution. Donc on peut vraiment dire qu'on est en sécurité à l'intérieur parce qu'on a pris des bonnes mesures pour se protéger à l'intérieur en utilisant des filtres à air notamment.
Yan Bokiyo, père de 5 enfants, a ce rêve fou, créer une communauté de citoyens informés, prêts à mettre le gouvernement sous pression pour qu'il entame enfin la transition verte, et pas seulement en Chine.
Voilà, alors ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de créer une carte mondiale de la pollution. Par exemple, là, on est en train de regarder le Pakistan. Donc, on a été les premiers à publier les données sur le Pakistan, qui est d'ailleurs un des pays les plus pollués au monde. Et donc, c'est des données super importantes pour les gens qui habitent, par exemple, à Karachi, où les taux de pollution s'envolent. Les gens n'ont aucune information. Donc, on apporte ces informations pour que les gens puissent se protéger et puis faire quelque chose contre la pollution.
Aujourd'hui, la start-up Air Visual fournit déjà des données pour 6000 villes. L'équipe en est convaincue, la révolution du contrôle mondial de la pollution partira de la Chine. Grand reportage Heike Schmidt et Hanno Wu, réalisation Eva Moschinski.
Les grandes voies d'Afrique.